Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission de radio tout en français sur Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lime.
Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille et sur Instagram Bouche à Oreille UK.
Ouvrez vos oreilles! Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christian Michel au studio. Installé à Londres depuis 2016, il est le fondateur de French London Experience, qu'il était d'ailleurs venu nous présenter l'année dernière. French London Experience offre des sorties culturelles, des visites guidées et diverses activités en langue française pour les francophones et les francophiles. Christian est passionné par l'histoire de nos deux pays et nous allons remonter le cours du temps avec lui, 120 ans moins un jour pour être précis, jusqu'au 8 avril 1904, date de la signature de l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne. Bonsoir Christian, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On ne peut pas se reposer au studio de Bouche à Oreille. Et on va te demander ce qu'est ce traité de 1904. De quoi s'agit-il ?
Alors, le traité signé le 8 avril 1904, qui a été signé à Londres par l'ambassadeur de France à Londres et le ministre des Affaires étrangères britannique, est un traité qui est peut-être moins ambitieux que ce qu'on peut penser. On le connaît sous le nom de Entente cordiale, mais il s'agit en fait d'accords entre nos deux pays, le Royaume-Uni et la France, pour se partager en quelque sorte des zones d'influence dans les territoires que nous pourrions appeler les colonies.
D'accord, donc il y avait une espèce de troc, c'est bien ça ? Comment ça s'est passé ?
Effectivement, on peut parler de troc, d'échange, de marchandage, d'influence. Hein. Je vais être un peu caricatural, je ne suis pas un expert historique, mais en quelques mots, la France se voit reconnaître son autorité sur des territoires tels que le Maroc et la Grande-Bretagne sur des territoires tels que l'Égypte. Donc effectivement, je vous donne ceci et vous me donnez cela.
Ce ne sont pas les billes à la récré, mais bon, on y est presque. Et pourquoi cordial ? Pourquoi entente et pourquoi cordial alors ?
C'est une vraie question et c'est une vraie explication de texte. Pourquoi entente cordiale ? Alors bien sûr, derrière ces choses d'influence, il y a quand même une idée fondamentale, parce que c'est le premier traité entre nos deux pays qui marque une entente, un accord, alors que nos pays sont quand même plutôt connus pour s'être combattus pendant de nombreux siècles, voire millénaires. Et alors, entente cordiale, en fait, c'est une expression qui date de 60 ans auparavant, quand était en France le roi Louis-Philippe et en Angleterre la reine Victoria. Et à ce moment-là, Louis-Philippe avait un ministre très anglophile, d'ailleurs qui avait été ambassadeur de France au Royaume-Uni, qui s'appelle François Guizot. Et il poussait un peu à un rapprochement avec la Grande-Bretagne, pardon. Mm-hmm. Et en Angleterre, il y avait aussi un ministre des Affaires étrangères assez francophile et plutôt favorable à un rapprochement. Et à ce moment-là, on a parlé de good understanding et on a parlé d'entente cordiale ou de cordiale entente exactement. Mm-hmm. Et Louis-Philippe donc a repris le mot de cordiale entente et il a invité la reine Victoria, et ce qui était un événement historique, il a invité la reine Victoria à se rendre en France en septembre 1843. Et cette date de septembre 1843, du 2 au 7 septembre 1843, est vraiment la date de ce qu'on appelle la première entente cordiale.
D'accord, donc ça a été quand même un traité bien mûri, parce que de 1904, il y a quand même 61 ans. Donc ça a eu le temps de mijoter, on va
c'est
dire.
C'est comme le bon vin, il faut le laisser vieillir. Mais effectivement, vous savez que côté français, on a eu beaucoup de régimes politiques au 19e siècle.
C'est vrai.
Et il y a eu des hauts et des bas dans cette relation. Mais l'entente cordiale de Louis-Philippe était marqué vraiment d'une manière importante, parce que c'était la première fois qu'un monarque britannique se rendait sur le sol français depuis Henri VIII. Donc ça marquait une réconciliation après tous ces siècles un peu d'ignorance ou de combat. Et effectivement, il y a eu des étapes. Donc 1843, Louis-Philippe, à la reine Victoria. Mmh. Et puis après, il y a eu la période avec Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République et surtout Napoléon III comme empereur. Napoléon III est venu à Londres en 1855 et il a invité la reine Victoria à Paris en août 1855, et ça a marqué une deuxième étape un peu dans cette bonne relation. C'était juste après la guerre de Crimée, où la France et la Grande-Bretagne avaient combattu ensemble. Et donc voilà. Et puis après, bon, la France a connu, on va dire, des événements historiques, hein. La chute de l'Empire, enfin du Second Empire, l'avènement de la République, les troubles qui sont liés à l'occupation prussienne et tout ça, et simplement même des tensions avec l'Angleterre dans les années 1890. Et puis finalement, quand le roi Édouard VII est devenu roi, celui qu'on appelait le Bertie, hein, le fils de la reine Victoria, quand il est devenu roi en 1901, il avait quand même un grand enthousiasme pour la France et Paris, et il a voulu relancer un peu cette idée, et il a été l'un des instigateurs de cette entente cordiale de 1904.
D'accord. Et en quoi est-ce que ça a enthousiasmé le public à ce moment-là? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été accueilli à bras ouverts? Ou est-ce que c'est passé un peu entre les gouttes, comme on dit?
Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. Si il y avait des discussions dès les années 1800, toute fin du 19e siècle, et en 1903, le roi Édouard VII décide d'aller à Paris. Et il va à Paris, et il a différents événements, ça se passe sur plusieurs journées. Au début, il est reçu de manière un peu froide, pour ne pas dire hostile. Hein. Les Français présents dans les rues rappellent des événements fâcheux entre nos deux pays.
D'accord. Et puis, donc ambiance,
exactement. Et il s'exprime aussi devant des parlementaires. Il faut bien mesurer le contexte historique. La France est plus ou moins la seule république dans le concert des nations européennes. Mmh. Et donc un roi qui vient au pays républicain...
On leur coupe la tête, oui.
Oui, alors les Anglais ont aussi coupé la tête à un de leurs rois avant
vrai.
Nous.
C'est vrai.
Et donc voilà, il y a un contexte. Et puis finalement, au cours de son séjour à Paris... Eh bien, il va renverser la tendance et à la fin, notamment dans les élites parisiennes, on va presque crier « Vive le roi !» Et effectivement, on va s'enthousiasmer pour ce roi qui vient ici, qui semble être très moderne. Et donc, on va continuer, effectivement, c'est vraiment cette visite du roi Édouard VII a vraiment réchauffé les relations. Et puis, l'année suivante, on va signer le fameux accord, qui, encore une fois, n'est pas tout à fait un accord sur un traité d'amitié, mais plutôt un accord sur une sorte de répartition des influences, mais qui est déjà importante dans une époque où et la Grande-Bretagne et la France sont dans une extension de leurs influences coloniales. Donc, il y avait une concurrence, quoi. Alors, bien sûr, ils se sont un peu alliés tous les deux face à un ennemi commun qui était la puissance allemande.
Ça aide toujours d'avoir, d'avoir une tierce influence qui peut-être, oui, unit les deux nations. Avant la pause, tu nous as parlé un peu de la genèse de l'entente cordiale hors antenne, tu nous as parlé de quelques petites anecdotes et j'aimerais que tu en fasses profiter nos auditeurs. Alors vas-y, spill the beans, comme on dit.
Alors une des premières anecdotes est sans doute celle lors du voyage du roi Édouard VII à Paris en 1903, quand il s'aperçoit effectivement que l'accueil n'est pas très favorable dans les rues. Il y a des messages sur des pancartes qui rappellent des événements qui divisent entre les Français et les Anglais. La guerre des bourgs, Fashoda et des choses comme ça. Et quelqu'un dit un membre de l'ambassade, et je lis, c'est Stephen Clark dans « Mille ans de mésentente cordiale » qui le cite, qu'il dit « Un membre de l'ambassade remarqua, les Français ne nous aiment pas ». Et le roi de répondre, pourquoi nous aimerait-il?
Quelle lucidité.
Et voilà.
Donc ça, c'était quel roi, rappelle-nous?
C'est celui justement qui a ressorti un peu le dossier de l'entente cordiale pour en faire un traité.
D'accord. Hein,
donc voilà. Mais d'autres anecdotes aussi, c'est par exemple notamment à l'époque de Napoléon III, quand Napoléon III en 1855, en avril 1855, vient à Londres, la reine hésite un peu quand même à accueillir un Bonaparte. Ce n'est pas rien. Et finalement, elle décide de l'accueillir au château de Windsor et non pas à Londres, à Buckingham Palace, le nouveau palais royal de l'époque. Et à Windsor, elle va lui remettre la plus haute décoration anglaise, qui est celle de l'ordre de la Jarretière. Mm-hmm. Et comment c'est assez intéressant de voir qu'un Bonaparte a été un jour chevalier de cet ordre. Et puis, quand quelques mois plus tard, à l'occasion de l'inauguration, enfin en tout cas de l'exposition universelle à Paris en août 1855, Victoria à Londres. D'ailleurs, petite anecdote que je n'ai pas encore évoquée. Mm-hmm. C'est une avenue s'appelle Victoria à Paris,
oui,
en hommage à cette visite. Et comment? Et donc Victoria, quand elle arrive à Paris, elle demande une faveur une demande particulière, je vais dire, parce qu'une faveur peut être ambiguë,
surtout quand on parle
de Édouard VII
qui aimait les femmes.
Et donc la reine Victoria, en août 1855, va demander à Napoléon III de pouvoir se recueillir sur la tombe de
Napoléon Ier.
Roi d'Angleterre ou une reine d'Angleterre qui effectivement va se recueillir sur le tombeau qui était déjà à l'époque, depuis 1840, aux Invalides à Paris. Elle se recueille dessus. Elle demande à son fils, le prince Albert-Édouard, qui deviendra le futur Édouard VII, de s'incliner sur le tombeau de Napoléon Ier. C'est quand même ça, c'est croustillant.
C'est très fort en symbole en plus.
Tout à fait.
On s'y serait pas attendu quelques décennies avant, je pense.
Non, je ne pense pas, effectivement. Il faut, encore une fois, rappeler ce que je disais un peu tout à l'heure en introduction, c'est que Victoria, en 1843, quand elle va rendre visite au château d'Eu, le château d'Eu, c'est un château qui appartient à Louis-Philippe, qui est en Normandie, à côté, proche de la côte normande, à côté du Tréport. Quand elle se rend là-bas, elle est la première monarque depuis plusieurs siècles, à se rendre sur le sol français. Donc c'est un événement. Et il va y avoir des festivités dans cette petite ville d'Eu en hommage de cela. Et quelques temps après, c'est Louis-Philippe qui viendra ici en Angleterre. D'ailleurs, Louis-Philippe, pour l'anecdote, était très anglophile. Il avait vécu en Angleterre pendant la période de la Révolution et un peu de l'Empire, parce que la famille royale était en exil pendant la période révolutionnaire et pendant l'Empire. Et vous connaissez peut-être, dans l'ouest de Londres, il y a une maison qui s'appelle Orléans House, parce que c'est là où Louis-Philippe a vécu pendant 2 années. Et Louis-Philippe, après le fait qu'il quitte le pouvoir en 1848 avec la révolution de février 48, vient vivre en exil en Angleterre dans un lieu qui aujourd'hui est privé, mais il y a le parc qui se visite toujours parce que c'est National Trust, qui s'appelle Claremont House, qui est au sud-ouest de Londres. Donc vous voyez, nos monarques ou nos dirigeants français ont souvent connu exil en Angleterre.
Oui, et puis ça a un peu continué, enfin pas en tant que monarque, mais ça rappelle aussi la Deuxième Guerre mondiale et le général de Gaulle, évidemment, basé à Londres. Donc comme quoi ces liens se sont... ont perduré. D'ailleurs, je voulais te poser la question de l'héritage, en fait, de ce traité. Qu'est-ce qu'il en reste, mis à part de belles cérémonies et des anecdotes très sympas?
Oui, alors de belles cérémonies, effectivement, on pourra en parler un peu après. Mm-hmm. Mais alors, il y a un héritage déjà direct dès l'époque. Enfin, c'est peut-être pas un héritage à l'époque, mais des actions concrètes. Parce que, par exemple, une femme dans les années 1910, Marie-Jeanne d'Orliac, française installée à Londres, très jeune femme, 20 ans, décide de créer l'Institut français, en tout cas ce qui préfigure l'Institut français tel que nous le connaissons aujourd'hui, en 1910. Hein, c'est pas au lieu où on le connaît aujourd'hui, c'est dans le quartier de Victoria. Et puis, quelques années après, elle crée un lycée français, ici à Londres. Alors, c'est pas le lycée français qu'on connaît aujourd'hui non plus, mais c'est quand même, elle a voulu donner corps à ce traité de principe. Et puis après, la chose la plus importante, je crois, qui est un héritage direct de cette entente cordiale de 1904, c'est le traité de triple entente entre la Grande-Bretagne, la Russie et la France pour la Première Guerre mondiale. Même si le mot entente est sans doute moins fort que le mot alliance, quand même, les soldats britanniques et les soldats français se sont retrouvés ensemble sur les terres du nord de la France et de la Belgique. Et donc ça, sans le traité de 1904, sans doute que ce n'aurait pas été aussi évident en 1914. Et on s'est retrouvé, comme tu le disais tout à l'heure, en 1940, hein, il y a deux périodes à cette époque. 1939-40, la France et l'Angleterre combattent ensemble. Et puis après, tout le monde connaît l'évolution historique en France, hein, avec le gouvernement du maréchal Pétain. Voilà, il y a un peu une différence, mais le général de Gaulle vient à Londres et se met à créer la résistance à Londres avec le soutien de Winston Churchill. Et ça aussi, c'est lié au fait que notamment que Winston Churchill était particulièrement francophile et qu'il voulait poursuivre les combats, et il a reconnu dans la personnalité du général de Gaulle quelqu'un qui pouvait répondre à ses idées.
Donc comme quoi il y a eu quand même des ramifications très, très importantes. Alors 120 ans, bon, c'est certes un anniversaire, mais ça paraît peut-être un petit peu curieux de fêter 120 ans. Pourquoi est-ce si important et si symbolique dans le contexte actuel ?
Alors, c'est une interprétation tout à fait subjective.
C'est vrai.
Mais je ne peux pas ne pas penser au fait que l'an dernier, le Premier ministre britannique s'est rendu en France. Ça faisait un moment que nous n'avions pas vu de Premier ministre britannique en France. Hein, il y avait des réunions régulières entre nos gouvernements. Elles avaient été un peu suspendues dans les dernières années. Et donc, le Premier ministre Rishi Sunak était allé en France rencontrer le président de la République, si je ne me trompe pas, en mars, donc 2023. Et puis, le roi, qui devait lui aussi y aller en mars, mais finalement, il est allé un peu plus tard dans l'année, est allé en France. Et s'est exprimé aussi devant nos assemblées. Et comment donc, effectivement, ça marque qu'il y a une sorte de nouveau départ, finalement, entre la France et la Grande-Bretagne. Peut-être un peu à l'image de Édouard VII qui succède à sa mère, Charles III qui succède à sa mère. Et puis, c'est l'occasion d'un nouveau départ, un peu pour ces bonnes relations entre nos deux pays. Je pense que c'est une bonne chose. Et les ambassades... L'ambassade de Grande-Bretagne à Paris et l'ambassade de France à Londres ont décidé effectivement de communiquer ensemble et de faire des actions en commun à Paris et à Londres pour célébrer cela. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions, on en reparlera un peu après. Il y a un prix littéraire, il y a des choses comme ça. Et voilà.
Très bien, très bien. Alors Christian, maintenant on va parler de French London Experience dans le contexte de l'entente cordiale, puisque comme on l'a rappelé en tout début d'émission, la vocation de French London Experience, c'est de faire découvrir ou redécouvrir des faits historiques qui touchent à nos deux pays, entre autres, hein, il fait beaucoup d'autres choses. Et tu as une visite guidée spéciale en Entente Cordiale. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, s'il te plaît ?
Oui, alors comme tu le disais, j'ai beaucoup d'intérêt pour ces questions historiques et qui nous rapprochent, en fait, qui marquent nos deux pays, l'histoire de nos deux pays. Mais effectivement, j'ai une visite particulière à South Kensington et bien sûr, celle-ci insiste beaucoup sur l'entente cordiale. Et en cette année d'anniversaire, j'insiste encore un peu plus sur l'entente cordiale que d'habitude, parce que cette visite commence à l'ambassade de France, qui, je le rappelle, ou je le précise, est à Knightsbridge.
Il n'est pas le consulat
à South Kensington. Et sur la façade de l'ambassade à Knightsbridge, qui c'est à Albert Gate, il y a des plaques commémoratives de la signature de l'entente cordiale. Il y avait une plaque pour le 50e anniversaire, une plaque pour le 100e anniversaire. Et donc c'est l'occasion pour moi d'expliquer un peu cette entente cordiale. Et Il y a aussi une autre anecdote. Je sais que vous aimez toutes les deux les anecdotes
tout
et je suis
fait,
sûr que
vrai.
Les auditeurs et les auditrices aussi.
Oui.
Et le premier ambassadeur à avoir habité dans l'ambassade de France à Knightsbridge était en fait le comte Walewski, mm-hmm. qui était l'ambassadeur du premier président de la République Louis-Napoléon Bonaparte et de l'empereur Napoléon Bonaparte jusqu'au moment où il deviendra le ministre des affaires étrangères de Napoléon III.
Mm-hmm.
Et donc le comte Walewski n'était autre que le cousin de Napoléon III parce qu'il était le fils naturel de Napoléon Ier.
on se sent bien en France là, je dois dire.
Oui, c'est que je dessine un family tree,
voilà,
l'arbre généalogique là, voilà. Ça devient compliqué.
Il nous faut le flip chart dans le studio pour bien tout retracer.
Tout à fait. Et le comte Walewski donc était l'ambassadeur de France à Londres entre 1851 si je ne me trompe pas, et 1854, et l'ambassadeur s'installe à Knightsbridge en 1853, dans ce bâtiment qui est toujours aujourd'hui l'ambassade. Et c'est vrai qu'il a beaucoup favorisé, sans doute, aux bonnes relations entre les deux pays. Et il a dû surtout aussi faire passer la pilule auprès des Britanniques quand, en 1851, il a dû annoncer que la France n'était plus dirigée par un président de la République, mais par un empereur, et que cet empereur était un Bonaparte.
C'était le double whammy, comme on dit de ce côté de la Manche. Donc dans tes visites guidées, je sais pas comment on les appelle, les visiteurs, en tout cas, on a l'occasion non seulement de se balader, mais d'avoir toutes ces informations et toutes ces anecdotes. Et j'ai moi-même fait une visite de Sceaux avec Christian, et je dois dire que c'est vraiment super sympa.
Aline Bavista and Elise Lines on Mix 92.6.